assez nettement ce que j'avais médité. Pardon ?
Tu peux aller jusqu'à 20.
Oui, d'accord. Mais c'est quand tu dis que tu viens, ça va être comme ça. Ok. Bon, ce que je veux dire, c'est que je vais finalement commencer par la fin. C'est-à-dire ce qui a été dit programmatique, en ce sens, j'aurais peut-être dû parler effectivement à la fin plutôt que maintenant, parce que pour tout le reste, pour ceux qui n'ont pas lu, je trouve cet ouvrage absolument remarquable. Il est remarquable, je ne vais pas répéter, il a été présenté, hein, cette typologie des critiques contemporaines. Alors, certes, non exhaustive serait sans doute impossible, mais elle est quand même extrêmement riche, riche aussi du point de vue de la bibliographie utilisée. J'ai trouvé toute une partie de la littérature que je ne connais pas en fait, et j'ai tenu un certain nombre de ces ouvrages en me disant que je vais aller voir. J'étais extrêmement bluffée, pour vous dire, par la vision, par l'exhaustivité, une relative complétude de ce panorama des critiques actuelles des droits de l'homme. Et je trouve aussi qu'elles sont analysées, ces critiques qui sont critiquées, qu'elles sont analysées avec, pour celles que je connais et pour d'autres que je ne connaissais pas, mais qu'elles sont présentées d'une manière qui me paraît extrêmement honnête. Hein, ce n'est pas du tout polémique, me semble-t-il, à tel point que certaines de ces critiques, alors que je suis une position, je vais y revenir fondamentalement, qui est celle des auteurs de ce livre, je défends une conception politique des droits de l'homme, mais certaines des critiques qui sont présentées, notamment celles que je ne connaissais pas, m'ont donné à réfléchir en me disant qu'après tout, c'était à considérer. Donc, une lecture extrêmement riche. J'acquiesce fondamentalement à l'interprétation politique qui est faite des droits de l'homme, et je pense que, ce qui a été fait référence à l'ouvrage que j'avais publié sur la démocratie sans démos, où mon fil conducteur était la notion de droit subjectif, le concept même. Bon, évidemment, je n'avais pas pu manquer de tomber sur les droits de l'homme, ni non plus manquer de tomber sur le droit à avoir des droits de Hannah Arendt. Je pense que l'usage que je faisais moi-même dans ce texte, la démocratie sans démos, était allé dans le sens, c'était très nettement un usage politique des droits de l'homme. Alors, il fait référence à une formulation sur l'interprétation de Hannah Arendt, que je ne vais pas m'étendre, je la connais certainement beaucoup moins bien que les auteurs du livre ne la connaissent. Il fait référence à une formulation que j'avais eue utilisée lors d'une intervention au Collège de France dans le cadre du séminaire de Pierre Rosanvallon. Justine Lacroix était aussi intervenue dans le cadre du séminaire, formule qui est relevée peut-être un peu forte. Je disais que Hannah Arendt aurait tenu pour impossible la substitution de l'appartenance à l'humanité en lieu et place de l'appartenance à l'État national. Bon, la formule, c'était une formule orale, était peut-être un peu abusive, mais je pense que fondamentalement, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que dans un texte note post l'ouvrage, ajouté à l'ouvrage, elle a nuancé sa position. Et il reste que ce qui est reconnu aussi dans votre ouvrage à propos d'Arendt, c'est qu'elle n'est pas précise quant aux formes institutionnelles qui permettraient une telle citoyenneté post-nationale. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on ait à lui reprocher, et si je crois que si on peut être aujourd'hui plus précis à cet égard, c'est tout simplement parce que le texte, le cadre institutionnel a changé. C'est-à-dire qu'il y a des textes juridiques, il y a plus qu'à son époque, des textes juridiques et des instances judiciaires supranationaux, supranationales. Il y a des pratiques judiciaires aussi dans les tribunaux nationaux ont changé, puisqu'ils évoquent, sans doute plus qu'à son époque, pas été vérifié, mais des textes également supranationaux. Bon, donc quand sont évoquées dans votre ouvrage des formules fédérales fondées sur une limitation de la souveraineté, une prolifération des contre-pouvoirs et une limitation de la puissance des États-nations par une combinaison d'initiatives citoyennes et juridictions internationales, bon, c'est d'aujourd'hui qu'il est présent. Et donc ce que vous faites, me semble-t-il, c'est de penser comme vous. Pour reprendre une formule, je crois, de Balibar que vous citez, penser avec Arendt, après Arendt. Bon, là-dessus, j'en suis d'accord. Donc, je ne pense pas qu'on ait une divergence du tout sur le livre me plaisait tellement, je me suis dit que j'avais rien à voir à dire, parce que quand on est entièrement d'accord avec un ouvrage, il n'y a pas de friction, en quelque sorte. Mais il y aura quelques points de questions, en fait. Elle ne porte pas sur l'interprétation d'Arendt, mais elle porte, je veux dire, de manière grossière, très globale, elle porte sur le diagnostic concernant le monde contemporain, donc sur la dernière partie, hein, sur la partie programmatique. Je vais quand même mentionner, c'est une introduction à ce que je vais dire après, un point de divergence avec l'interprétation par Arendt de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, une interprétation que vous semblez reprendre à votre compte, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le paradoxe des droits de l'homme, donc la tension entre le caractère universel supposé des droits de l'homme et la souveraineté nationale de l'autre, que ce paradoxe était inscrit dans la Déclaration de 1789, comme il ressort de la juxtaposition de l'article 1, les hommes naissent libres et demeurent libres égaux, et le 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Alors vous commentez, je crois que vous prenez à peu près une formule, je n'ai pas vérifié, mais enfin, l'analyse, page 284, vous commentez en disant « À peine l'homme venait-il de s'imposer comme un être émancipé et autonome qu'il disparaissait pour devenir membre d'un État-nation ?» Je ne sais pas si c'est une citation d'Anna Arendt, mais c'est effectivement un élément de son analyse. Or, il me semble qu'il y a là une erreur d'interprétation dans le sens de l'article 3, dont n'est pas citée la suite, à savoir, donc le texte de l'article 3, c'est les hommes, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, deux points, explicitation, oui, je ne me trompe pas, nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui en émane expressément, fin de citation, et dans la Constitution de 91, à peu près la même idée, la souveraineté, une indivisible, inaliénable et imprescriptible, elle appartient à la nation, deux points, aucune section du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, fin de citation. Donc l'objectif de l'article 3, en sens, était de rejeter toute appropriation de la souveraineté par une partie de la nation, ce monarque était visé, ou par une partie du corps politique, et non pas de réduire la portée de l'égalité des droits énoncée dans le premier article aux citoyens de l'État-nation, d'un État-nation déterminé, qui était en l'occurrence l'État français. Bon, donc, comme Balibar, que vous citez à différentes entreprises, je tiens que la déclaration de 89 ne fait pas de différence entre l'homme et le citoyen et qu'elle proclame par conséquent un droit universel à la politique. Je reprends une expression de Balibar, je trouvais clément, au moment où il commente ce texte, ce 89, dit le concept de citoyen de la déclaration de 89 n'est pas un concept d'appartenance, c'est en quelque sorte le concept d'un citoyen pris absolument. Alors, je crois que cette analyse est confirmée par les analyses de certains historiens concernant le rapport entre nationalité et citoyenneté au moment de la Révolution française. Donc, je renvoie entre autres à l'ouvrage de Dieter Bosse-Winkel, que vous connaissez peut-être, qui est publié il y a deux ans maintenant, sur l'histoire de la citoyenneté au 19e et 20e siècle dans un certain nombre de pays européens, qui remarque qu'à l'époque de la Révolution française, les critères d'identification du citoyen et des Français non seulement étaient conceptuellement différents, mais qu'ils n'étaient pas même corrélés. Et dans le même ordre d'idées, Patrick Veil remarque, dans son ouvrage sur l'histoire donc, de la...
Qu'est-ce qu'un Français ?
Je pense que ce titre, en histoire de la nationalité, pour moi, par rapport à l'histoire de la citoyenneté de l'ouvrage de Zanikal, il note qu'en 89, les révolutionnaires s'intéressent d'abord aux divisions de la société française plutôt qu'à la frontière qui sépare l'étranger du français, les privilèges sont abolis, les corps de corporation sont supprimés, etc. Donc je pense que c'est ça qu'il faut entendre dans l'article 3 et que c'est pas l'affirmation, la question de la frontière n'est pas présente dans la déclaration. Pas la Constitution, mais dans la Déclaration. Donc le concept d'un citoyen pris absolument, pour revenir à la formulation de Balibar, n'a pu surgir certes qu'à un moment très fugitif, bon, d'où les citoyens d'honneur d'ailleurs, accorder la citoyenneté d'honneur à des gens qui ne demandaient pas de changer de nationalité. Donc n'a pu surgir qu'à un moment fugitif où le principe révolutionnaire de l'égalité des droits a été posé indépendamment de toute appartenance. Il est évident que ce concept a été très rapidement occulté par l'hybridation entre citoyenneté et nationalité. J'arrive à mon point qui est que il va de soi que ce droit ne pouvait s'exercer que dans le cadre d'une configuration déterminée du pouvoir politique, en l'occurrence l'organisation territoriale de l'État. Mais ça, c'est, vous citez d'ailleurs à un moment, vous citez Eric Weitz critiquant Samuel Moyn à un moment, en disant « Les révolutionnaires ont hérité la monarchie de la forme nationale et ont proclamé les droits de l'homme pour démocratiser cette forme. » Ils ont hérité de la monarchie la forme nationale. Ce que je veux dire, c'est que l'organisation territoriale de l'État, c'est un État, un résultat du procès de centralisation du pouvoir qui est antérieur à la Révolution. Il y a pas mal d'analyses de Claude Lefort, enfin le texte de Claude Lefort développe des analyses qui vont dans ce sens. Bon, il faudrait développer sur le procès d'étatisation, puis, les deux processus doivent être légèrement différenciés, de nationalisation de la citoyenneté. Bon, pour dire que ce n'est que lorsque les droits civiques ont été accordés à tous les nationaux, en suppression du suffrage censitaire, droit de vote aux femmes, etc., que la nationalité et la citoyenneté se sont recouvertes, bon, jusqu'à se confondre. Et le paradoxe des droits de l'homme, me semble-t-il, c'est le résultat de cette histoire. Et je crois, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais je crois que nous avons été intérêt à revenir sur cette histoire si nous voulons donner une substance effectivement politique à l'idée d'une citoyenneté politique. La relecture de cette histoire, à mon sens, est une bonne voie, meilleur moyen, un des moyens pour, je cite une formule que vous utilisez à propos d'Anna Arendt, pour briser l'équation automatique entre la nationalité et la citoyenneté. Vous dites à un moment que personne ne peut douter que telle était son intention. Je crois que la relecture de l'histoire donc, de la citoyenneté dans ses liens avec la nationalité est un bon moyen pour arriver à briser cette équation. Si, malgré les critiques d'inspiration nationaliste, souverainiste, l'idée d'une citoyenneté cosmopolitique continue à hanter les discours contemporains, morts sous différentes modalités, alors même que personne ne croit possible un État mondial, et que par ailleurs il y a de bonnes raisons de ne pas le souhaiter, si cette idée continue à et aussi, bon, se rencontrer, être discutée actuellement, c'est parce que les structures de notre monde, je dirais dans une terminologie qui n'est pas la mienne, sa constitution matérielle, économique, politique, juridique, mais un certain nombre de gens qui s'étaient placés aujourd'hui, personnellement je parle de la topologie mondiale des pouvoirs, c'est parce que les structures de notre monde offrent aux citoyens de ce monde une diversité d'espaces possibles pour leur action locale, nationale, régionale, je pense à l'Union européenne, transnationale. Donc les droits de l'homme sont politiques parce que l'homme auquel ils sont reconnus est un sujet politiquement actif, que c'est même par cette déclaration que ce sujet est institué comme tel, c'est-à-dire comme sujet et non comme assujetti, cette figure de la subjectivité politique apparaît, mais le cadre dans lequel cette activité peut s'exercer varie selon cette conjoncture et il n'est pas, ce dont on a peut-être plus conscience aujourd'hui qu'en 1789, il n'est pas nécessairement national étatique. En bref, il n'y a pas de contradiction entre la logique des droits et celle de la citoyenneté moderne. Le primat du discours des droits de l'homme n'implique pas la perte du sens civique, un point sur lequel, je crois, nous sommes d'accord. Là, je pense qu'il y a une divergence, qui est tout à l'heure, c'est, qui est annoncé tout à l'heure, c'est sur le diagnostic sur le monde présent, c'est-à-dire le cadre dans lequel il est possible, j'arrive à vos dernières pages, à votre aspect programmatique, le cadre dans lequel il est possible de faire communauté. Et divergence aussi sur ce qu'il faut entendre par faire communauté. La critique que vous faites de la critique communautaire des droits de l'homme implique que l'activité citoyenne, donc politique, peut s'exercer au-delà de l'État de nation. Vous vous méfiez par ailleurs, cela a été rappelé, une conception de la politique qui la réduit à une lutte pour les droits qui serait essentiellement défensive et sans perspective institutionnelle. J'ai bien aimé l'expression. Alors, d'une part, d'un côté, vous dites qu'il n'y a pas de droit en dehors des luttes pour les droits, une thèse qui écarte une réduction positiviste du concept de droit. Mais vous ajoutez, et vous avez rappelé cette expression que j'ai bien aimée, la politique des droits ne doit pas se réduire à la magnification, ça c'est pas votre vocabulaire, magnification de l'effervescence sociale et politique. Cette position vous amène à prendre distance avec Rancière, même si c'est peut-être avec un peu plus de nuance que je l'ai fait moi-même. L'intérêt que vous prêtez à très juste titre, et je vous suis, au au débouché institutionnel de la logique des droits, vous amène à introduire la question du commun et de la communauté. Je crois d'ailleurs qu'on ne peut pas éviter d'introduire cette question. Vous le faites brièvement, mais c'est là que, brusquement, j'ai eu quelques interrogations, quelques notes, quelques points d'interrogation en marge. Pour aller vite au cœur du problème, le commun et la communauté, est-ce que c'est la même chose? Il y a aujourd'hui toute une littérature sur le commun, que vous connaissez, aux ouvrages synthétiques de Dargaud Labat, outre leur propre position, une synthèse sur un certain nombre de travaux actuellement sur le commun. Une littérature très intéressante parce qu'elle réintroduit dans la théorie de la démocratie la question de la propriété. Mais cette littérature, ce que j'en connais, a tendance à éluder le problème inhérent à la notion de communauté, à savoir celui de ses frontières, c'est-à-dire de l'exclusion qui va de pair avec toute forme d'inclusion. Bon, c'est un leitmotiv de l'ouvrage de Dieter Bösewinkel que j'évoquais tout à l'heure. Modification de la forme de l'exclusion, mais toute forme d'inclusion implique une exclusion. Cette littérature donc, sur le commun élude le problème inhérent à la notion de communauté, celui des frontières. Donc, contre la proposition. Contre la proposition que j'ai faite, un peu brutale, je l'accorde, dans la démocratie sans démos, d'abandonner la notion de souveraineté du peuple et, je me citer, de prendre congé de l'idée ou de l'idéal d'une communauté démocratique, vous évoquez, à ce moment-là, le risque de défaire le lien entre le sujet de droit et la communauté en passant par pertes et profits, la nécessité d'un monde commun et en négligeant que la connaissance d'un droit implique l'appartenance à une communauté. Disons que notre discussion commence là. Est-ce que le monde commun, c'est la même chose que l'appartenance à une communauté ? La notion de monde commun, qui est assez utilisée aujourd'hui, commun, monde commun, me paraît, à vrai dire, assez vague. Elle est susceptible d'interprétations très diverses. Ce peut être, c'est un usage que j'exploite en ce moment, la terre que nous habitons en commun, disons dans une veine kantienne, la terre que nous habitons en commun et que nous devons nous partager. Chacun a droit à avoir une place sur terre pour vivre libre. Ce peut être le commun qui se constitue dans l'action commune, je crois que vous l'avez évoqué, et c'est le sens dans lequel on tarde la parole. Ce peut être aussi des représentations, des grilles d'interprétation partagées, par exemple l'interprétation de l'égalité, des droits de l'homme, etc. La notion de communauté est plus près, bien que vague, et plus précise. Dans l'usage actuel, puisque les questions de politique, c'est de communauté politique dont on parle, dans l'usage actuel, cette notion renvoie, quoi qu'on veuille, à la forme État, État national ou une organisation supranationale qui garderait, grosso modo, les formes de l'État, fédéral ou pas. Donc, un État qui ne serait pas nationaliste, cela va de soi. À propos d'Arendt, il est dit qu'il faut sortir du nationalisme, cette pathologie de la citoyenneté, je souscris. Un État qui ne serait pas non plus national parce que, et je cite une citation que vous faites de Raphaël Nolès-Godbard, page 326, parce que ce serait une société ouverte qui connaît seulement des citoyens, peu importe de quelle nationalité, son ordre légal est ouvert à tous ceux qui vivent sur son territoire. Dans la suite, vous plaidez en vous recommandant d'arrêter. Vous avez peut-être
C'est Arène qui parle, d'accord.
Vous recommandez d'arrêter pour une démocratisation, une ouverture raisonnée des frontières en posant fermement que ceux qui sont dans le territoire sont aussi du territoire. Je vais raccourcir, j'arrive à mon point en fait de discussion, de véritable point de discussion, je pense, par rapport à cet ouvrage à une concert, de divergence. Cette dénationalisation souhaitée de la citoyenneté est bien sûr liée à la question des migrants. On ne s'étonnera pas que dans l'ouvrage consacré aux droits de l'homme et à Arendt, il en soit beaucoup de questions. Cette dénationalisation de la citoyenneté se présente donc comme un débouché institutionnel à la politisation des droits de l'homme, c'est parce qu'elle impliquerait d'accorder aux migrants résidents dans le territoire les mêmes droits qu'aux citoyens nationaux, donc ils sont aussi du territoire, c'est-à-dire les droits politiques. Bon, que l'absence des droits politiques soit la cause principale de la précarité des droits des immigrés, de toute nature, hein, pour les vite, je ne distingue pas le demandeur d'asile, etc. jusqu'à affecter les droits civils les plus élémentaires, le droit à la mobilité, les droits de l'homme, le droit à la mobilité, le droit d'émigrer, le droit à la vie familiale, etc. Bon, en suivant les analyses d'Arendt, cela va de soi. Reconnaître comme citoyens tous ceux qui sont sur le territoire d'un État, dans le territoire d'un État, donc leur accorder à tous la citoyenneté, devrait permettre de résoudre le problème. La question, cependant, laisse dans l'ombre, peut-être réfléchissez-vous là-dessus, la question des conditions d'accès au territoire étatique de la communauté. C'est bien d'être dans le territoire, être traité comme étant du territoire, mais encore faut-il être dans le territoire. Donc en quoi consisterait, selon il est question, une ouverture raisonnée, est-ce que ça veut dire raisonnable, des frontières. Alors je ne vais pas développer, ça va nous engager une discussion fort longue, si nous interrogeons là-dessus, je vais me contenter d'indiquer ce que je fais pour moi un enjeu, du glissement de la notion vague de monde commun à celle plus précise de communauté, donc plus précise à partir du moment où elle est plus ou moins identifiée à la forme état. La communauté, la notion de communauté présume d'une structuration politique du monde en territoire circonscrit par des frontières spatiales. Vous prenez un moment de suggestion de Pierre-Rosan Vallon qui consiste à parler de communalité plutôt que de communauté, ce qui permet de conserver l'exigence de solidarité collective, au sens civique, hein, tout en sans rien concéder aux interprétations identitaires du collectif. Mais cette terminologie, cette modification terminologique, perpétue une interprétation territoriale du pouvoir politique et des conditions de garantie des droits. Et ma thèse, en fait, la thèse peut-être que je n'ai pas suffisamment développée, mais ma thèse sur laquelle on pourrait discuter, c'est que cette interprétation est en passe de devenir obsolète, ou tend à devenir obsolète. C'est relayé. Les frontières territoriales ne sont plus l'élément décisif qui, en séparant citoyens et non-citoyens, permet d'assurer la solidarité de l'intérieur de la communauté politique. Bon, d'un côté, on pourrait multiplier les exemples, je ne vais pas vous faire du Stiglitz, mais d'un côté, on sait que les nationaux, généralement les plus riches, peuvent vivre et payer leurs impôts ailleurs que dans les pays dont ils sont citoyens, ou vivre dans un pays tout en déclarant leurs revenus là où ils payent le moins d'impôts possible ou pas d'impôts du tout, ce qui, sans perdre leurs droits politiques, hein, sans être destitués de leur aspect citoyenneté, ce qui compromet gravement ce que vous évoquez à la fin de votre ouvrage, à titre de plaidoyer pour une forme, une communauté politique, qui compromet gravement la possibilité pour l'État national de continuer à fonctionner comme un espace de distribution sociale. D'un autre côté, je parle de frontières, du caractère obsolète ou en passe de s'éroder de la structuration territoriale du pouvoir politique. D'un autre côté, les modes de gestion des flux migratoires, pour employer une terminologie bureaucratique, ont déplacé les lieux d'accès au territoire, donc les frontières, vers l'extérieur, par la participation financière et administrative des gouvernements européens, par exemple, aux politiques de contrôle des migrants par les pays de départ et les pays de transit, et vers l'extérieur, je renvoie aux travaux que vous connaissez peut-être de Alain Chachard sur le Shifting Borders of Immigration Rights, qui montre, c'est une juriste et politiste canadienne qui est aussi un pied dans un axe flanc à Göttingen, qui a montré comment les politiques migratoires actuelles permettent de traiter des migrants qui ont déjà mis le pied sur le territoire d'un État comme si ce n'était pas le cas. Elle prend l'exemple de la France, l'exemple des États-Unis, c'est-à-dire en les empêchant par la mer, alors qu'ils sont bien dans le territoire, de faire valoir les droits théoriquement reconnus aux étrangers sur le sol national, par exemple le droit d'asile. Donc je comprends bien, je termine là-dessus, les raisons qui motivent l'attachement à l'idée de communauté comme lieu privilégié de la solidarité et de la garantie des droits, et je crois que vous le savez, j'ai aussi fait une critique des conceptions anti-institutionnelles à institutionnelles de la politique. Mais je pense que le problème politique central aujourd'hui n'est plus celui de la nationalisation et de la dénationalisation de la citoyenneté, mais, je m'arrête vite, hein, celui, je m'arrête là trop vite, de la déterritorialisation des pouvoirs, ceux qui sont officiellement reconnus comme des pouvoirs politiques, et d'autres, juridiques en un sens large, producteurs de normes, judiciaires, économiques, qui tous contribuent à la structuration de notre univers politique. Bon, l'immigration aujourd'hui, c'est un problème mondial et c'est le produit des formes actuelles de partage du monde que je pense qu'on va éclairer à partir de cette